Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce vendredi 25 décembre, eh bien, d'abord joyeux Noël à vous qui nous écoutez. Nous sommes ravis de partager ce moment avec vous. D'autant qu'à la radio, il n'y a pas de problème de distanciation sociale. Alors nous vous emmènerons près des enfants qui commencent à tester leurs jouets de Noël, à une messe, même sous contrainte, à la cathédrale de Toul. Nous saluerons une initiative solidaire avec les petits frères des pauvres à Lille. Nous les rejoindrons d'ailleurs à table dans quelques minutes. Dans l'actualité, il y a aussi le Royaume-Uni face au défi du Brexit. Boris Johnson est ravi de ce qu'il appelle un cadeau de Noël fait aux Anglais. Les pêcheurs français, eux, dont les activités seront limitées dans les eaux britanniques, vont bénéficier d'une aide forfaitaire qui montera jusqu'à 30 000 euros. Dans RTL Midi aussi, nous partirons au milieu de nulle part, en plein Pacifique Sud, retrouver l'un des skippers du Vendée Globe, Maxime Sorel, qui court entre autres avec les couleurs d'RTL. Il nous racontera son Noël en solitaire. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Et en plus, un Noël blanc, on en rêvait.
Et oui, de la neige sur tous les reliefs depuis ce matin, entre les Pyrénées, le Massif Central et les reliefs de l'Est, en plus à basse altitude des 400 mètres sous un ciel malgré tout chargé. Entre les frontières du Nord, le Centre, en allant vers le Sud-Ouest, là c'est bien nuageux. On pourrait avoir quand même quelques trouées, trois gouttes possibles également, mais de manière très localisée. Puis c'est plutôt agréable à l'Ouest, avec de belles éclaircies entre la Bretagne, la Normandie et la façade atlantique. Et le ciel est également dégagé, hein, près de la Méditerranée, mais avec beaucoup, beaucoup de vent, comme sur les Pyrénées et la Corse. Et les températures, elles sont hivernales, de 3 à 9 degrés globalement et jusqu'à 12 à Nice.
La question du jour sur RTL.fr, le Covid vous gâche-t-il la fête? Eh bien, vous êtes 53% à dire oui, à 42% de non. On sent bien que c'est quand même compliqué. J'attends vos témoignages au 3210. Échangeons nos impressions et vous prendrez la parole à partir de 13h. J'aurai le plaisir de dialoguer avec vous.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Le Père Noël est passé, c'est bien la seule personne sur laquelle le Covid n'a aucune prise. Les enfants ont déballé leurs cadeaux et après avoir eu des étoiles plein les yeux, ils passent aux travaux pratiques. Pierre Collat, vous êtes rendu à la base de loisirs de la Ramée, c'est un lac situé dans la banlieue de Toulouse où les enfants sont venus essayer leurs cadeaux.
Oui, et la petite route goudronnée qui entoure le lac est idéale pour Faustine. À 8 ans, elle n'a pas voulu attendre pour tester ses cadeaux.
Des rollers, un atelier de bougies et un atelier pour les bracelets.
Faustine peut donc tester ses rollers à peine sortie du paquet cadeau. Elle est heureuse, Ghislaine, sa mère également. Elle aurait quand même préféré dormir un peu plus tard ce matin, mais la pression des enfants était trop forte.
Ça s'est bien passé, les enfants étaient contents, et nous aussi d'ailleurs.
Ce matin, ils ont voulu tester leur cadeau tout de suite.
Ah oui, dès 7h du matin, oui. Comme chaque année.
La petite famille fait partie des rares à avoir eu le courage de venir ce matin. Il faut dire qu'en plus du vent, on a perdu 6 à 8 degrés en à peine 24 heures ici à Toulouse.
Okay. Il y a un petit peu de froid, mais bon, on est courageux et on veut tester ses rollers et voilà.
Et il est déjà l'heure de rentrer à la maison pour se réchauffer et bien sûr pour déguster le déjeuner de Noël avec au menu du canard, Sud-Ouest oblige.
Bah oui, quand même, il y a des traditions. Merci Pierre. La traditionnelle bénédiction du pape Urbi et Orbi à la ville et au monde depuis Rome. Nous avons plus que jamais besoin de fraternité, a-t-il le pape François, soulignant que le visage des enfants de Syrie, d'Irak et du Yémen doivent ébranler les consciences. Mais en plein confinement en Italie, alors que la messe au Vatican a été célébrée en petit comité hier, le pape François a prononcé un plaidoyer pour le vaccin.
Aujourd'hui, en ce temps d'obscurité et d'incertitude pour la pandémie, apparaissent diverses lueurs d'espérance, comme les découvertes des vaccins. Mais pour que ces lumières puissent illuminer et porter espérance au monde entier, elles doivent être à disposition de tous. Nous ne pouvons laisser les nationalismes étriqués nous empêcher de vivre comme la vraie famille humaine que nous sommes. Nous ne pouvons laisser non plus que le virus de l'individualisme radical prenne le dessus et nous rende indifférents à la souffrance de tant de frères et sœurs. Je ne peux me mettre moi avant les autres, mettant les lois du marché et des brevets au-dessus de l'amour et de la santé de l'humanité.
Le message très sanitaire du pape François avec Olivier Bonnel. Et le Covid s'invite jusque dans la crèche de Noël. Un mec Mexico, les bergers et les rois mages ont le bas du visage couvert d'un ruban adhésif blanc pour rappeler le port du masque. Cette crèche a été installée dans le jardin d'une maison privée, mais ça arrange bien les autorités sanitaires qui peinent à convaincre sur les gestes barrières. Port du masque obligatoire et distanciation sociale, les règles s'appliquent aussi dans les églises. Samuel Goldschmidt, vous venez d'assister à la messe de Noël à la cathédrale Saint-Étienne de Toul en Lorraine.
Et oui, alors il y a évidemment un petit peu plus d'espace entre les paroissiens, mais la messe de Noël a bien eu lieu.
Bonjour à tous et bienvenue. Réjouissons-nous en ce jour de Noël.
Avec des participants masqués, mais qui n'ont pas vu beaucoup de différence avec l'habitude.
C'est tout à fait normal, c'est très bien. Il n'y a pas beaucoup de monde non plus, c'est vrai.
On est distancé, alors comment je dirais ?
Bon, c'est comme ça, il faut s'y faire, jusque quand, voilà.
Une messe plutôt normale pour le curé.
Pourquoi voulez-vous qu'elle ne soit pas normale ? En plus, célébrée par le vrai Père Noël, puisque c'est mon nom de famille.
Mais oui, le père Roland Noël, 81 ans, a apprécié cette nativité 2020.
Nous avons fait hier soir une à 17h et l'autre à 18h30. Et ce matin, pas mal de monde, mais un peu moins que d'habitude, mais c'est normal un petit peu. Avec un banc sur deux, ça permet un petit peu de donner la communion sans que les gens se déplacent. On essaye de respecter les règles.
Mission accomplie et facilitée par la cathédrale où il y a évidemment de la place.
Et c'est donc le Père Noël qui a célébré la messe à Toul. Merci Samuel. Fêter Noël à 6 maximum, ça veut dire aussi multiplier les repas. Nombreux sont ceux qui se rendaient encore au marché ce matin après un réveillon inédit. Comme vous avez pu le constater, Juliette G à Neuilly-sur-Seine.
Un chapon comme ça.
Et je vous le prépare tout de suite.
Oui, on vient faire les courses de dernière minute pour le repas de Noël. Au menu, les classiques.
Il y aura du foie gras maison, il y aura des petites gougères maison et un roulé aux fraises et à la confiture maison.
Tout maison, vous l'avez compris, pour Olivier, 6 adultes et 2 enfants, on est en petit comité.
On a fait attention avec la distanciation et sinon oui, on a fait en sorte que ça soit normal et je crois qu'on n'a même pas parlé du Covid à table, vous voyez ?
Il est là le lapin.
Pierre, 92 ans, achète 2 morceaux de lapin. Cette année, il a fait réveillon seul avec sa femme.
Tous les ans, on se réunit. Mais là, on a fait une exception. Ma fille, elle a dit non, il faut prendre des précautions, c'est surtout ça.
Pierre et sa femme iront donc voir leurs petits-enfants après le repas. Et puis au stand de légumes, on pense déjà à la digestion.
De la salade, des avocats, des clémentines, voilà. C'est pour aider la digestion du repas de Noël, on va dire. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fête à tout le monde.
Bonne fête, au revoir.
Reportage Juliette G. à Neuilly-sur-Seine. Chaque jour dans RTL Midi, nous saluons cette semaine une initiative solidaire. Et en ce jour de Noël, nous passons à table à Lille avec les petits frères des pauvres. Bonjour Myriam Riane.
Bonjour.
Vous êtes l'une des responsables de cette antenne de l'association et merci d'avoir quitté la table pour nous rejoindre. Quelles sont personnes qui sont autour de vous ?
Alors juste une précision, je suis travailleur social ici, je ne suis pas la responsable. Non mais c'est pas grave. Oui, alors aujourd'hui c'est un jour spécial hein, puisqu'on a invité à peu près 6 personnes, 6 personnes isolées. Un repas de Noël. Donc, c'est des personnes qui habituellement fêtent Noël normalement dans une grande salle avec les petits frères des pauvres. Mais cette année, compte tenu du contexte sanitaire, on a décidé de nous organiser et de faire des mini-repas.
Donc, vous
voilà,
en faites
6 personnes.
Vous en faites beaucoup plus en réalité.
Oui, ça a commencé le 23. Hier, on a eu un repas également. Aujourd'hui et le 31.
Bon, alors, comment les avez-vous choisis ? J'imagine que ça devait être assez difficile en cette période où la précarité explose.
Très difficile. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on accompagne à peu près 70 personnes. Et dans les 70 personnes, évidemment, il y a des personnes bien plus isolées que d'autres. Donc, on a fait un choix. Donc, les personnes vraiment les plus isolées, qui n'ont vraiment pas de réseau ou d'amis ou de voisins, on les a invitées physiquement. Et le reste des personnes n'ont pas été oubliées puisqu'il y a des bénévoles qui se sont mobilisés pour leur porter des réveillons à domicile comme il se doit de vrais repas de Noël.
Bon, c'est un moment de partage évidemment essentiel. D'habitude, on en parlait, vous faites de grands repas. Cette fois, puisque le Covid vous contraint à faire quelque chose de plus intime, on se demande si au fond, c'est pas encore mieux ces repas à 6. C'est plus contraignant pour vous, mais il y a un échange qui doit être beaucoup plus intéressant.
Oui, en fait, déjà, il y a le, comme vous dites, il y a une proximité entre certaines personnes qui se voyaient dans les grands ensembles, mais qui ne se parlaient pas forcément. Là, c'est sûr que ça crée un petit peu plus de liens entre les personnes à table. C'est plus intime, plus familial. Voilà, elles apprennent à se connaître un petit peu mieux, on va dire, qu'à l'origine, quoi.
Vous en êtes à l'entrée, là, en ce moment, Myriam.
Eh bien, écoutez, nous avons pris un apéritif avec un petit verre de champagne. Voilà, donc là, l'apéritif se termine. Nous allons passer à table prochainement avec une entrée. Donc là, aujourd'hui, c'est une entrée mère. Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que chaque personne a choisi son repas. Ce n'est pas un repas imposé pour l'ensemble, c'est qu'on a permis à chaque personne de choisir elle-même son repas. Donc aujourd'hui, les entrées, c'est des entrées mères. Donc c'est des entrées mères pour tout le monde, à base de poisson. Et ensuite, ben, il y aura, je pense, du canard pour certains, du veau pour d'autres, du cabillaud pour le reste. Voilà, donc c'est vraiment comme si on était en famille aujourd'hui.
Cette année a vraiment été atypique. Quelle est l'image la plus frappante que vous garderez ?
Dans ce contexte, vous voulez dire sanitaire ?
Oui.
Bah écoutez, moi, ce qui va me rester, c'est quand même la détresse de certaines personnes, le manque de morale, en fait, des personnes qui, plus que jamais, ont besoin de soutien, de soutien moral. C'est ça qui me frappe cette année avec ce contexte sanitaire. Voilà, des personnes qui s'isolent de plus en plus et qui ont vraiment besoin de soutien moral.
De soutien et de chaleur humaine, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup, merci Myriam Rihan. Je vous laisse retourner à votre déjeuner. Joyeux Noël à vous, à tous ceux que vous aidez. Et merci aussi à Antoine de Carn qui a assuré cette liaison. Merci Myriam.
Merci à Antoine, merci.
À bientôt.
À bientôt.
Et puisqu'on parle de solidarité, une cagnotte a été lancée par la gendarmerie pour les familles de ces trois hommes qui sont tombés à Saint-Just dans le Puy-de-Dôme sous les balles d'un forcené, Cyril Morel, Rémi Dupuis et Arnaud Mavel. Une cérémonie d'hommage leur sera rendue lundi prochain. Une pause et dans un instant, on va s'intéresser aux pêcheurs après l'accord sur le Brexit.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Boris Johnson, fier de son cadeau de divorce, le Premier ministre britannique s'est vigoureusement réjoui d'avoir obtenu un accord commercial pour la sortie du Royaume-Uni de l'Europe à quelques heures du réveillon. Il le présente même comme un festin de Noël, plein de poissons d'ailleurs, ajoute-t-il. Il plaisante sur l'un des principaux sujets de discorde, l'accord sur la pêche. L'Europe devra progressivement renoncer à 25% de ses prises dans les eaux britanniques, ce qui représente 650 millions d'euros par an. Pour les pêcheurs français, c'est une grosse perte. Il va falloir les accompagner, Bénédicte Tassin.
Oui, parce qu'avec cet accord, on évite le pire. Le 1er janvier prochain, les pêcheurs français pourront toujours aller taquiner le poisson à une dizaine de kilomètres des côtes du Royaume-Uni, au grand dam d'ailleurs de leurs collègues anglais ou écossais. Mais un, vous l'avez dit, les poissons ramenés dans les filets devront être progressivement moins nombreux. Sur ce sujet, c'est encore flou, 25% de prise en moins. Mais quelles espèces, quelles zones de pêche seront concernées? Des négociations doivent débuter dans les jours à venir. Et deux, l'accord n'est donc valable que 5 ans et demi jusqu'en juin 2026. Après, se réjouit Boris Johnson, renégociation tous les ans. Et donc, il n'y a pas de limite à ce que peuvent récupérer les Britanniques. Une aide se met donc en place pour les professionnels français. Une enveloppe pouvant aller jusqu'à 30 000 euros en fonction de la situation de chaque pêcheur, chaque mareyeur. Ajoutez à cela des subventions pour que certains se reconvertissent, se restructurent. Le plan complet d'accompagnement doit être prochainement présenté par la ministre de la Mer.
Bénédicte Tassard, de nombreux routiers toujours bloqués du côté de Douvres en Angleterre. Ils passent Noël dans la cabine de leur camion avec souvent un simple petit sapin miniature qui symbolise l'esprit de fête. Beaucoup attendent encore d'être testés pour pouvoir traverser la Manche. Mais hier, 1000 plateaux repas ont pu leur être distribués avant le réveillon. Jacques Gounod, le PDG d'Eurotunnel, elle raconte à Martial You cette course contre la montre.
Nous avons été prévenus par le ministère des Transports en fin d'après-midi et on s'est organisé pour faire passer une dizaine de camionnettes de la Croix-Rouge. Les gens ont fait traiter ça en priorité absolue chez nous et je peux vous dire que toutes les camionnettes étaient arrivées à 19h sur le sol de la Grande-Bretagne. Nos 2500 salariés vraiment sont toujours mobilisés, je dirais même sont passionnés par des défis de cette nature qu'ils ont tous l'habitude de relever avec brio. Moi, j'ai toujours une pensée pour les camionneurs qui sont très souvent parqués sur les bas-côtés, qui passent après les autres. C'est vraiment très, très, très pénible. Bon. Et même dans cette période difficile, on a fait passer plus de 2000 camions hier. On en a depuis ce matin presque 4 à 500 qui sont passés, malheureusement, après le réveillon.
Le PDG d'Eurotunnel, Jacques Gounon, la direction du port de Calais estime que la situation sera totalement résorbée demain dans la journée. C'est une bonne nouvelle. C'est devenu un classique. Nous sommes de plus en plus décomplexés vis-à-vis des cadeaux que nous avons reçus il y a quelques heures en revendant ceux qui ne nous plaisent pas. D'après un site de vente en ligne, 40% d'entre nous ont déjà revendu un cadeau et les annonces se multiplient depuis ce matin, Martial Young.
Ben oui, déjà 300 000 annonces depuis ce matin. Alors quand on regarde la catégorie comme neuf, donc en gros, l'objet déballé puis remis dans sa boîte sans avoir servi, eh bien, il y a deux fois plus de petites annonces dans cette catégorie depuis quelques heures. Alors, pas de surprise sur le podium et pas de doute non plus sur le fait que ce sont bien des cadeaux de Noël qu'on remet en vente. Première place, les jeux et les jouets. Deux fois plus d'offres depuis ce matin que d'habitude. Deuxième place, les jeux vidéo. Et troisième place, les produits high-tech, ordinateurs, écouteurs, téléphones. Ce sont les 18-24 ans qui ont le réflexe revente. Et selon l'enquête de Rakuten, ce sont aussi beaucoup plus les femmes. 45% que
ne
les
regardez
hommes.
Pas, j'ai rien fait moi.
35% des hommes qui osent remettre sur Internet le cadeau immédiatement. Alors, en général, on peut obtenir 30% de rabais sur un objet presque neuf, c'est pas négligeable. Surtout que le cadeau d'occasion, il est devenu très tendance puisque le site a enregistré une hausse de 60% cette année sur les cadeaux de seconde main.
C'est la tendance du moment. Merci Martial. Emmanuel Macron a pu passer Noël en famille puisqu'il n'est plus à l'isolement, mais c'est le mystère concernant l'endroit où se trouve le président. Quant aux principaux responsables politiques, ils ont mis en scène leur message de Noël, Marie Mollet.
Et oui, Noël, c'est aussi l'occasion de se rappeler aux bons souvenirs des Français pour leur adresser un message personnel et politique. Comme tous les ans, Marine Le Pen y veille très soigneusement. La patronne du Rassemblement National s'est affichée en habit de lumière devant un immense sapin pour exalter la tradition de Noël, même en ces temps troublés.
La belle fête de Noël, à laquelle nous sommes légitimement attachés, peut et doit rester ce moment magique de lumière et d'amour, de générosité et de partage.
Mais pas question de s'afficher en train de festoyer. Noël, c'est aussi l'occasion de se montrer sur le pont, aux côtés de ceux qui travaillent, même la nuit du réveillon. Jean-Luc Mélenchon se met en scène dans un hôpital de l'île de la Réunion avec les soignants. Tout comme le numéro 3 des Républicains, Aurélien Pradier, chez lui, dans le Lot, avec des médecins. Noël pour enfin donner de l'écho à de grandes causes. L'eurodéputé de gauche, Raphaël Glucksmann, qui aujourd'hui adresse un message aux chrétiens d'Orient, persécutés et menacés à travers le monde.
Marie Mollet, un léger tremblement de terre ce matin à Strasbourg de magnitude 2,5, peu avant 10 heures. Il s'est produit à quelques kilomètres d'un site qui accueille un projet de centrale géothermique. Il y a quelques semaines, après une secousse beaucoup plus forte, le projet avait été définitivement arrêté. Et puis dans RTL Midi, on a eu envie aujourd'hui de prendre des nouvelles de quelqu'un qui passe Noël au milieu de nulle part. L'un des skippers du Vendée Globe, Maxime Sorel, il est 10e au classement et on suit son parcours avec beaucoup d'attention depuis son départ des Sables d'Olonne. Bonjour Maxime Sorel.
Bonjour.
Joyeux Noël.
Ben ouais, joyeux Noël à vous aussi. Un Noël un peu particulier, je vous avouerai.
Alors racontez-nous.
Seul en mer, dans l'océan Pacifique, très proche du point Nemo, c'est le point le plus éloigné de toute la Terre. Donc quand je vous dis seul, c'est vraiment seul. Alors j'ai quand même quelques concurrents autour de moi, mais j'ai fait un vrai réveillon hier. Mon équipe m'avait mis un sac qui s'appelait la hotte du Père Noël, et dedans il y avait quelques cadeaux et surtout de quoi cuisiner un bon repas.
Alors, qu'est-ce que vous avez mangé? Racontez-nous.
Eh bien, j'avais du foie gras. Alors, j'avais pas du bon pain frais, malheureusement. J'ai mis ça sur des biscottes, des crisp rolls. Et puis, ensuite, je me suis fait une bonne plâtrée de pâtes italiennes avec de la très bonne huile d'olive, des bons petits légumes, du parmesan. Et en dessert, j'avais des cannelles au rhum vanillé.
Mais ça, c'est génial, dites donc. C'est bon pour le moral, ça. C'était quand même un repas exceptionnel, parce que d'habitude, vous mangez plutôt des choses, des plats lyophilisés.
Oui, ouais, effectivement. Là, on m'avait mis une passoire pour égoutter les pâtes. Enfin, il fallait vraiment que je cuisine. Ce qui veut dire que je vais aussi avoir de la vaisselle à faire. Mais non, ça fait vraiment du bien de prendre un petit temps pour soi, et puis je l'ai fait en visio avec la famille qui était réunie, donc voilà, presque un vrai Noël, on va dire.
Alors, comment ça s'est passé en visio, finalement, c'est un petit peu comme nous tous ici. Hein. Vous savez, il y a beaucoup de à terre, très très loin de l'autre côté du globe. Il y a énormément de gens qui ont fait Noël en visio avec leur famille. Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec vos proches hier? Est-ce que ça avait une intensité particulière?
Ouais, ça avait clairement une intensité particulière. Moi, c'est un projet que je prépare depuis 2 ans. C'est sûr que on sait qu'on va passer les fêtes en mer. Moi, c'est quand même un moment généralement à terre où j'arrive à me poser, à retrouver mes proches, pas souvent à la maison. Donc c'est un moment important. Et voilà, forcément un peu triste de pas le faire avec eux, mais ce n'est que partie remise. Et puis voilà, c'est la concrétisation d'un rêve, faire le tour du monde à la voile en solitaire. C'est juste exceptionnel. Donc voilà, il faut profiter de tous ces moments.
Ça fait quand même presque 3 mois que vous êtes parti maintenant. Comment vous vivez cette solitude au milieu de nulle part ?
Ben, c'est vrai que c'est pas simple. On essaye d'avancer au jour le jour, suivant les manœuvres, suivant ce qu'on a à faire, suivant les siestes qui nous rythment aussi. Parce qu'on fait plusieurs siestes sur 24 heures. On ne peut pas dormir d'un coup d'un seul. Du coup, ça permet d'aller assez vite quand même dans le temps, d'avancer malgré tout. Une vision à long terme, c'est vrai que parfois on en a un peu peur parce que ça dure quand même 90 jours cette course. Là, on entame la 47e journée de course. Forcément, c'est long. On a beau l'avoir répété à terre, se dire que ça a duré 3 mois, 90 jours, on ne se rend pas vraiment compte tant qu'on ne l'a pas vécu. Et seul en mer, c'est vrai que c'est un peu spécial.
C'est-à-dire qu'il y a des moments de blues ?
Ouais, il y a quelques moments de blues. Quand ça m'arrive, moi, souvent, je prends ma plume et j'écris. Alors, j'écris pas avec une plume, j'écris sur un téléphone.
Ah oui.
Mais j'ai écrit une première fois au sud de l'Atlantique et j'ai appelé ça le quatrième cap. Faut savoir que sur le Vendée Globe, il y a 3 caps, hein, le cap de l'Afrique du Sud, Australie et puis Amérique du Sud, le Cap Horn. Et en fait, moi, j'ai trouvé que pour moi, il y avait aussi un quatrième cap qui était une espèce de voyage intérieur. Et c'est un cap qu'on décide de passer quand on veut, mais qui est très dur à passer. Et je pense qu'il dure jusqu'à temps qu'on passe la ligne d'arrivée, en fait.
Oui, donc vous êtes au cœur du quatrième cap. Est-ce que, par exemple, ça vous rend contemplatif ?
Oui, clairement. Je vois des choses que pas grand monde pourront voir. J'ai notamment, il y a moins de 4 jours maintenant, j'ai vu un bout de caillou au milieu de nulle part, qui est très mal cartographié sur nos logiciels. Je suis passé juste à côté. Et en fait, j'en avais presque peur. Alors, il y avait plusieurs sensations dans ça. Il y avait le fait de ne pas avoir vu de terre depuis plus de 40 jours. Et puis d'être à un endroit où quasiment personne ne va. J'ai aucune idée de qui a vu ces cailloux la dernière fois, tellement c'est éloigné. Donc, ouais, c'est vraiment des sensations exceptionnelles.
Et quelles sont vos conditions de mer en ce moment, Maxime Sorel ?
Mais là, on est en fait dans un anticyclone, donc système de haute pression où le vent est plutôt faible, la mer plutôt clémente. Donc là, il y a à peine 2 mètres de houle. C'est peu, en fait, hein, dans le Grand Sud, savoir qu'on a eu des mers de plus de 6 mètres et des vents là d'une vingtaine de kilomètres heure. Donc c'est plutôt mou, un passage un petit peu compliqué. Normalement, on enchaîne les dépressions successives et là, on se retrouve avec une énorme bulle anticyclonique sur l'avant de la flotte et on est en train de tous se regrouper là. Donc c'est assez étonnant à ce stade de la course, mais très content de mon début de parcours en tout cas.
Est-ce que, vous êtes 10e au classement général, c'est quand même génial. Vous ne pensiez pas être aussi haut hein, quand vous êtes parti ?
Ben non, pas du tout, parce que l'objectif pour nous, c'était déjà de terminer. Hein. Faut savoir qu'il y a quand même un bateau sur deux qui abandonne. Donc c'est un objectif qui est pas simple à réaliser. Et puis, j'imaginais être peut-être en milieu de flotte, entre 15 et 17e, ça aurait été pas mal. Là, aujourd'hui, à plus de 55% de courses réalisées, je suis 10e, donc c'est que du bonus, je prends.
Est-ce que vous avez hâte de rentrer ?
Oui, ce serait vous mentir que non. Je suis pas un vrai solitaire dans l'âme. J'aime montrer aux gens tout ce qu'on peut vivre parce que c'est quand même exceptionnel. J'aime communiquer, j'aime parler avec les gens et c'est vrai que le fait d'être isolé comme ça, c'est pas une très grande partie de plaisir. En tout cas, j'y vais pas pour ça, pas pour la solitude. Et j'ai hâte d'en voir mes proches, forcément. Et ouais, je pense que c'est normal d'avoir envie d'en rentrer, mais je vais finir la course avant ça.
Eh bien, merci beaucoup, Maxime. Merci d'avoir pris quelques minutes pour RTL Midi et encore joyeux Noël, en ce Noël si particulier dont vous vous souviendrez toute votre vie, j'imagine.
Ouais, bah merci beaucoup et puis joyeux Noël à vous et à tous les auditeurs.
Au revoir, merci. Et au classement général dans la matinée, Charlie Dalin a repris la première place à Yannick Bestaven. Il le devance de 42 km. Jean Le Cam, vous savez, c'est l'homme qui avait sauvé Kevin Escoffier. Il se maintient, lui, à la quatrième place. On fait une pause dans un instant. Notre chronique, une affaire de famille.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Et nous retrouvons notre nouvelle rubrique.
RTL. Une affaire de famille.
Une affaire de famille avec des entrepreneurs qui travaillent ensemble de génération en génération. Nous partons aujourd'hui dans le Bordelais, plus précisément dans le vignoble de Sauterne. Bonjour Philippe Demaria.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
Vous nous faites visiter le Château Guiraud, premier grand cru classé de Sauterne, un délicieux vin blanc liquoreux, une des premières grandes propriétés du Bordelais à être passée en bio.
Oui, le patron charismatique de Guiraud depuis plus de 30 ans, c'est Xavier Planty, une figure du monde viticole. Regard aiguisé, personnalité forte qui aime le combat. Et c'est lui qui, par exemple, mène la fronde contre la LGV Bordeaux-Toulouse qui passerait un peu trop près des vignes de Sauterne. Il nous accueille dans son château. La propriété s'étale sur plus de 120 hectares.
C'est vrai que quand je montre des photos de Guiraud à tous nos clients étrangers, que je leur dis « tiens, ça c'est mon bureau », ça les fait rire. Surtout les mecs qui sont dans leur tour à Hong Kong.
Alors lui-même s'étonne de quitter ce paradis qu'il a façonné pour s'effacer devant la nouvelle génération.
C'est-à-dire que j'ai un fils qui est très brillant, alors aujourd'hui c'est lui mon patron. C'est étonnant, personne n'aurait pensé que j'accepterais. Mais...
Luc, le fils, a 33 ans, ingénieur, il passe par d'autres maisons avant de revenir à Guiraud.
J'ai pas fait beaucoup d'autres propriétés, hein. J'ai travaillé chez des voisins ici. Voilà, après sur la propriété familiale, j'ai commencé à 12 ans, donc en fait en arrivant...
Tu commences à faire quoi?
Les tracteurs, à 12 ans je pourrais te faire les listes des...
Les tracteurs, mais par contre, lever la vigne ou être pré...
J'irai voir les bulletins et les déclarations. Ça se frite de temps en temps, mais c'est normal. Enfin, comme un père avec son fils, quand on n'est pas d'accord. Après, ça dure 30 secondes et puis on passe à autre chose.
Oui, mais enfin, ils sont quand même d'accord sur l'essentiel.
Oui, ils sont également d'accord, et ça va de pair, sur le bien fondé du grand tournant qu'a pris Guiraud vers le bio. Xavier Planty est un précurseur dans le vignoble. Juste devant le château, une nouvelle parcelle va voir le jour.
Celle-là, c'est celle de mon fils. Celle-là. C'est lui qui imagine la parcelle, parce que cette parcelle va être conduite en agroforesterie.
Surtout, on verra des rangs de vignes et des arbres et des haies. Faire du bon, c'est une évidence. Faire du bio, c'est une évidence. De toute façon, c'est pas compliqué. Je sais pas faire autrement. Puis faire de toute façon, demain, on me dit, on arrête le bio. En fait, je vous dis très bien, mais ça sera sans moi. On gère une propriété, on essaie de la réintégrer dans un milieu écologique en limitant son impact.
Quel millésime tu nous sers ?
C'est 2002.
Ah, ça c'est bon.
C'est un millésime qui a les équilibres et le charme qu'on a toujours recherché dans Guiraud.
Sauterne est un vrai vin de fête qui se marie avec beaucoup de choses. Alors oui, il y a les grands classiques, le foie gras, mais il ne faut pas avoir peur de le prendre avec des huîtres, avec des crustacés. Les fromages avec le Sauterne, c'est splendide.
Sauterne, c'est le vin de lumière. Quoi. Quand vous voyez la couleur, l'éclat de ces vins, quand vous voyez comment ça reflète le moindre rayon de soleil, Sauterne, c'est le vin de lumière. C'est une table de fête, c'est incontournable.
Et le Sauterne, c'est aussi très bon sur les fruits rouges. Je vous conseille d'essayer. Oui, oui, Peggy, vous
n'avez
jamais essayé ?
Non.
Je vous conseille. Alors, la météo, cette fois, c'est l'hiver.
Et oui, avec des températures proches des normales, Christelle, et parfois même en dessous des normales, 2 à Ambérieu, 3 à Besançon, 4 à Toulouse, c'est froid, dans le sud-ouest, 5 à Strasbourg, Lille, Alençon, comme à Montélimar, 6 à Paris, 7 à Bordeaux, 9 degrés à Marseille, et quand même un petit 12 degrés à Nice. Maintenant, côté ciel, alors c'est souvent nuageux avec de la neige depuis ce matin sur tous les massifs. Ça fait plaisir pour ceux qui sont en montagne, des Pyrénées, en allant vers le massif central et tous les reliefs de l'Est, de la neige à basse altitude en plus, dès 400 mètres. Attention au fort risque d'avalanche quand même sur les Alpes du Nord. Un petit coup de tonnerre possible également cet après-midi sur les Alpes-Maritimes. Et puis sinon, sur une grande partie nord-est, centre et sud-ouest, beaucoup de nuages, quelques éclaircies, une petite averse possible. Et ça restera beau sur l'ouest du pays, la face à l'ouest entre la Bretagne, la Normandie, Pays de la Loire, jusqu'au littoral aquitain. Un peu plus de nuages également sur la pointe bretonne qui vont arriver en fin d'après-midi. Puis le ciel est bien dégagé également sur le golfe du Lion. Mais là, ça souffle fort, très fort même. Des rafales jusqu'à 110 km/h comme sur les Pyrénées et la Corse où le temps est partagé.
Bon, et ce week-end s'annonce contrasté.
Oui, parce que samedi, on a un temps plutôt calme, petite accalmie, mais quand même bien gris dans l'ensemble. Quelques faibles pluies sur le nord-ouest. Pour les éclaircies, parce qu'il y en aura quand même, ce sera surtout vers les Pyrénées et également sur la Méditerranée en allant vers les Alpes. Et dimanche, nouvelle perturbation bien active. Elle va balayer le pays, beaucoup de pluie, de la neige et beaucoup de vent, du vent fort, jusqu'à 110 km/h sur les côtes et même jusqu'à 100 km/h à l'intérieur des terres.
Merci Peggy et joyeux Noël à vous.
Joyeux Noël Christelle.
RTL, il est 13h.
RTL Midi. Avec Christelle Rebière.
Et on va pouvoir dialoguer tous ensemble au 3210, partager ce Noël si étrange. Il y a Elisabeth qui est déjà en ligne. Bonjour Elisabeth.
Bonjour, je vais partager un Noël avec vous.
Eh bien, avec grand plaisir. Je fais un petit rappel des titres et puis on se parle juste après, d'accord ?
Merci.
Restez
Christelle.
En ligne avec nous, merci. Ce Noël 2020, les routiers français bloqués de l'autre côté de la Manche ne l'oublieront pas. Seuls ceux qui ont un test PCR négatif peuvent rentrer en France. 25 médecins et infirmiers sont partis de Calais ce matin pour réaliser un maximum de tests. Il y a deux jours, nous avions eu en ligne Laurent Béguin qui espérait pouvoir être de retour à Noël. Bonne nouvelle, cette fois il va pouvoir quitter l'Angleterre et il en pleure de bonheur.
Cette nuit, on a été testé là. Ça, il y a eu des renforts militaires anglais qui sont arrivés sur le site. Ils nous ont testés. À 2h du matin, j'avais mon test négatif. Donc, ils ont commencé à nous laisser partir. Bah, là, je suis dans le tunnel sous la Manche. Puis, je vais commencer à mettre dans les travées pour attendre mon tour. Bah, si tout va bien, il faut à peu près, allez, on va dire 3h. Bah, je pense rentrer chez moi vers 16h, si tout va bien. Le temps de décrocher le camion et puis prendre ma voiture. Je passerai quand même un petit Noël avec mes enfants et ma famille. J'ai la haine, sérieux, j'ai la haine. J'ai les larmes aux yeux. J'ai une petite là, qui a un problème d'handicap, elle pleure. Parce qu'elle a entendu ça à la télé, à la radio, et elle est dégoûtée, quoi, la petite, elle s'en rend malade. À 52 ans, pleurer comme ça, c'est quand même dommage.
Voilà l'émotion de Laurent avec Guillemette Franquet. La direction du port de Calais estime que la situation sera totalement résorbée demain dans la journée. Le message de Noël du pape François, nous avons plus que jamais besoin de fraternité. Et il a prononcé un plaidoyer pour le vaccin anti-Covid. La vaccination doit démarrer dans toute l'Europe dimanche. Noël reste un moment de solidarité au-delà de la distanciation sociale. À Nanterre, dans le quartier populaire Pablo Picasso, l'association Authenticité qui lutte contre toutes les formes de discrimination n'a pas pu organiser son réveillon traditionnel. Mais elle n'a pas laissé tomber ceux qui sont le plus dans le besoin. Reportage Nicolas Burnand.
Au pied des tours, dans les locaux de l'association, chaque bénéficiaire est accueilli par un bénévole.
Bonjour monsieur, bienvenue.
Le port du masque et le lavage des mains sont obligatoires pour accéder à la distribution des paniers repas pour Noël.
Un plat de légumes, plat de viande, hors d'œuvre, dessert, ça c'est à toi. Deux adultes et trois enfants. Et puis t'as d'autres choses là-bas.
Va. Au fond de la salle, des chocolats et des paquets cadeaux sont réservés aux enfants.
Regarde, c'est plus lourd qu'elle.
Zainati, sans emploi, élève seule ses deux petites filles.
C'est normal. Je les remercie au fond du cœur. On ne s'en sort pas, on ne travaille pas, on ne reçoit que des aides. Ça serait plus compliqué d'acheter. Qu'ils soient contentes, c'est l'essentiel.
Et pour respecter les règles sanitaires, il a fallu cette année tout repenser, explique Karima, l'une des organisatrices.
En fait, ils rentrent par sas. Tous les 10 minutes, il y a 4 familles qui doivent être représentées par une seule personne. Il y a aussi un sens unique de circulation, qu'on puisse, malgré cette crise difficile, trouver un peu de baume au cœur aujourd'hui.
Car dans ce quartier populaire, les familles ont été durement touchées par le confinement. Loubna Benazi est la présidente de l'association.
On est fiers, hein. De pouvoir organiser ce type d'action. On reçoit des personnes qui sont à bout tous les jours. Ça leur fait plaisir. Ils ne se sentent pas oubliés. Et on est là pour justement qu'on ne les oublie pas.
Les habitants repartent les bras chargés de cadeaux.
Merci, bonne fête à tout le monde. Au revoir.
Un moment d'insouciance retrouvée pour Noël lors de cette année si particulière.
Un reportage Nicolas Burnand. L'accord de divorce après 38 ans d'un mariage houleux aura donc été trouvé juste avant le réveillon de Noël entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Les pêcheurs européens doivent renoncer renoncer progressivement à 25% de leur capture, ce qui représente 650 millions d'euros par an. La France va fournir aux pêcheurs une aide forfaitaire pour atteindre 30 000 euros. Pardon. L'année sportive a été fortement perturbée par la pandémie. Championnat arrêté, JO reporté. Les athlètes de haut niveau ont dû s'adapter. Isabelle Langer vous propose pour ces fêtes de fin d'année les étoiles du sport. 12 rencontres. Aujourd'hui, c'est Marie-Amélie Le Fur, 8 fois médaillée aux Jeux paralympiques, dont 2 en or, et présidente du comité paralympique qui se confie.
Marie-Amélie, bonjour.
Bonjour Isabelle.
Qu'est-ce que vous retiendrez de cette année 2020, un peu spéciale, personnellement ?
Effectivement, l'année 2020 était une année compliquée pour la sportive que je suis, compliquée aussi pour la présidente du comité paralympique. Mais pour autant, ça n'a pas été une année de perdu. C'est une année où on a pu en fait retourner sur les fondamentaux. Et surtout, je me dis, c'est une année en plus pour aller chercher en 2021 une performance encore plus belle que celle qu'on aurait pu produire à l'été si les Jeux s'étaient tenus normalement.
Les Jeux paralympiques reportés, ça a été un coup dur quand même à assumer ?
Ça a été un terrible coup dur. Enfin, moi, je voulais arrêter ma carrière en août 2020. J'avais des ambitions personnelles, des ambitions professionnelles derrière cet arrêt de carrière. Mais à un moment donné, il a fallu se poser les bonnes questions. Et puis très vite, la passion du sport, l'envie de réussir, l'envie de terminer la carrière sur un événement extraordinaire a pris le pas. Donc on a pris le temps de se poser avec les coachs, se poser les bonnes questions, réfléchir comment à la fois on tient une année de plus quand on a une vie chargée, quand on est jeune maman et que voilà, les sacrifices familiaux sont plus importants. Et surtout comment on met à profit cette année supplémentaire, encore une fois, non plus pour aller chercher 6 mètres ou 6 mètres 05, mais pour aller chercher 6 mètres 30.
Le premier confinement a été plus difficile que le deuxième. Est-ce que vous vous êtes découvert des nouvelles passions, par exemple ?
J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de me découvrir des nouvelles passions. Parce qu'en fait, le travail ne s'est pas arrêté. On a appris à travailler différemment. Parce que les entraînements ne se sont pas arrêtés. On a appris avec les coachs à faire en fait avec ce que j'avais à proximité de la maison. Et certes, j'ai pas fait de travail technique dans le bac à sable, mais on en a profité pour encore une fois travailler voilà des petits exercices sans vitesse, travailler beaucoup la base aérobie. Donc la charge d'entraînement était la même, la charge de travail aussi. Et surtout, bah moi en fait le confinement c'était bien parce que j'étais aux côtés de ma fille, aux côtés de mon mari tous les jours, ce que j'ai pas la chance d'avoir dans mon modèle de travail habituel. Donc encore une fois, j'ai essayé de voir le positif de ce premier et de ce deuxième confinement qui pour moi m'a permis en fait d'avoir un bon équilibre entre ma vie personnelle, ma vie sportive et ma vie de présidente.
Alors justement, les objectifs de 2021 maintenant ?
C'est celui bien évidemment de réussir les Jeux paralympiques, vraiment que cette nation française, elle aille à Tokyo conquérir des médailles, certainement dans un format de jeu qui sera nouveau. Et il va falloir que les athlètes se préparent à ça. Et on a aussi un enjeu de faire comprendre l'importance du sport dans la vie de la personne en situation de handicap. Et petit à petit, pour préparer 2024, arriver à avoir une évolution des politiques publiques pour faire en sorte que le sport y rentre vraiment à tous les moments de la vie de la personne en situation de handicap.
Personnellement, 2021, vous en attendez quoi ?
Personnellement, c'est un épanouissement global. J'ai envie de réussir mes Jeux. Réussir mes Jeux, c'est bien évidemment revenir titré, mais c'est aussi vivre une aventure extraordinaire avec l'équipe de France, avec l'équipe de para-athlétisme, avec mes proches, ma famille. Et c'est pour ça que je serai comblée. Et puis après, c'est pourquoi pas, en tout cas, je l'espère, des vacances derrière ces Jeux, des vacances que j'attends maintenant depuis quelques temps, encore une fois, pour trouver ce juste équilibre entre la sportive, la présidente et la femme.
Les confessions de Marie-Amélie Le Fur avec Isabelle Langer. RTL avec les étoiles du sport, une chronique à retrouver sur notre site rtl.fr.
RTL Midi. Les auditeurs ont la parole. Avec Christelle Rebière.
On n'est jamais assez aux gens qu'on aime. Pas peur de les gêner qu'on les aime.
Voilà, j'avais envie de commencer cette émission où je vais dialoguer avec vous et où on va parler de Noël avec cette petite pépite que la famille Chédid a gentiment postée sur les réseaux sociaux ce matin. Voilà, toute la famille qui chante cette chanson qui est particulièrement adaptée. D'ailleurs, on n'avait jamais pensé à en faire une chanson de Noël, mais ça pourrait être le cas. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Et bah, c'est le jour ou jamais. On retrouve Elisabeth. Rebonjour Elisabeth.
Rebonjour Christelle. Alors justement, ce que je vais faire, juste une minute. Je vais avoir une pensée pour Alain Crosse, parce que Laurent Marsic a mis ce matin une photo de lui.
Qui avait présenté Les Auditeurs ont la parole.
Le premier.
Oui, c'est vrai.
Et j'y étais, déjà. Et j'ai été très émue en voyant ça, en me disant, c'est loin, mais c'est quand même tellement près de notre cœur. Donc voilà, maintenant on peut passer à Noël.
Bon alors, vous nous racontez votre Noël?
Alors, Noël si prévu, parce que là j'ai une suspicion de varicelle.
Non.
J'ai une suspicion d'angine. Mais enfin, c'est pas
oh
grave.
Ah ben non.
Mais si, mais tout est prévu, de toute façon, on pousse la porte. Alors je vais vous dire, c'est sous forme de goûter.
Oui.
Avec des assiettes individuelles sur lesquelles on... J'ai fait que des pains surprises.
Oui.
Comme ça fait qu'on picore, pas trop dans les cacahuètes, parce que comme on l'a entendu beaucoup, c'est pas bon.
Ah non, il ne faut pas mélanger. Non.
Il ne faut pas mélanger.
D'abord, gel hydroalcoolique quand tout le monde arrive, on vous a expliqué
ça. Voilà, ça c'est à l'entrée. Ils ont tous leur masque. Alors, parce que j'ai mes deux enfants, mon fils et ma fille, qui ont chacun des enfants. Mm-hmm. Et...